Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Post-Scriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
Salut, ça y est, c'est parti. C'est le nouveau son de ma vie, c'est le nouveau son de ma voix. Bise, à bientôt.
J'enregistre la première voix, la voix aiguë. Et j'écoute la deuxième et c'est vraiment une surprise. Mais là, c'est la première fois que je l'entends. En fait, elle est bien, je l'aime bien. Lettre sonore numéro 32. Chère voix.
C'est lui qui est venu nous chercher.
Un beau jour, François, un ami d'amis, nous contacte alors qu'il est au tout début de sa transformation.
Il veut raconter, laisser une trace, que sa voix, la voix de ses 40 dernières années, ne disparaisse pas à tout jamais.
Et c'est comme ça que cet épisode est né.
Alors, pendant 6 mois, nous avons cheminé avec François, tout au long de cette quête extraordinaire qui a été la sienne. Celle de trouver sa voix.
Celle de trouver sa voix.
Donc nous sommes dans le centre de Nantes, à côté de l'ancien palais de justice, et je sors d'une séance d'orthophoniste qui a son cabinet à cet endroit-là. Je suis François, j'ai 44 ans. J'ai commencé il y a 6 semaines ce travail avec l'orthophoniste suite à un diagnostic de mufossé qu'un phoniatre avait mis à jour. C'est qu'en fait, pour X raisons, je ne suis pas passée dans ma voix, à la période de la mue, de l'adolescence, je ne suis pas passée dans la voix grave. Donc là, en fait, la voix grave, c'est ce qu'on appelle la voix de coffre, et moi, je suis toujours dans ce qu'on appelle la voix de tête, donc plus aiguë. Alors le programme de cette 6e séance, on s'est plutôt amusé aujourd'hui. On a été dans le chant et dans le théâtre. On a fait des gammes où elle est au piano, où on a fait un exercice donc, qu'elle appelle le MOM, où on a fait des gammes en montant et en chantant avec ce son-là de MOM, et elle au piano et moi à reprendre un peu la suite.
MOM, MOM, MOM. Mom, mom, mom. Mom, 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 mom.
En fait, je peux passer à chaque instant d'une voix à l'autre. Je peux, sans effort particulier, tout d'un coup, en plein milieu d'une phrase, parler avec cette autre voix et revenir à la première sans aucun problème. Pour moi, le changement, il est psychologique. Et donc, le travail aujourd'hui, il est plus de... L'accepter, c'est un peu fort, vu qu'elle n'est pas étrangère, mais c'est de l'installer, de lui faire prendre la place complètement dans ma vie, pour qu'elle soit la voie officielle que j'ai choisie et vers laquelle j'ai envie d'aller, et de l'installer. Parce que finalement, c'est aussi accueillir cette... Même si elle était là, c'est accueillir cette nouvelle voix et que je ressens beaucoup plus sa localisation dans la gorge, dans le fond de la gorge, alors que la voix que j'ai jusqu'à aujourd'hui, je la sens peut-être juste au fond de la bouche, plus que dans la gorge.
Cher orthophoniste, chère Madame Bevard, ces 9 rendez-vous que nous avons eus pendant ces derniers mois ont été pour moi des moments agréables, passionnants et révélateurs. Chacun s'accorde à dire depuis 6 mois que nous vivons un moment particulier avec la pandémie. Ce travail sur ma voix a accentué la singularité de cette époque. Le clin d'œil ultime sera peut-être que tout au long de ce travail autour de ma voix et des sons à sortir de ma gorge, nous avons dû cacher nos bouches. Et voir ces yeux rieurs au-dessus de votre masque m'a été d'une grande aide. Sachez que derrière le mien se trouvait un large sourire. Voilà, j'arrive à l'entraînement de basket. Donc je vais annoncer ça à mes divers camarades de sport donc ce soir.
Salut.
Je m'appelle Guy et je suis un ami de François. François, on peut le présenter que sur ces photos. C'est un album que l'on a fait pour mes 70 ans. Alors, on l'a fait autour des copains du basket. Puis, on voit François avec sa grosse barbe. Et c'est vrai que j'avais ma famille qui était là. Alors, il y avait mon épouse, mes enfants. Et quand j'ai reparlé de François il y a peu de temps à une de mes filles, elle me dit « Ah oui, le monsieur a la grande barbe et a la petite voix ». Parce que c'est vrai que François, ça fait bizarre quand on le voit pour la première fois, quand on le voyait pour la première fois, c'est qu'il avait une petite voix. C'est pas une voix d'homme, quoi. C'est une voix de presque d'adolescent sur un bonhomme quand même bien charpenté. C'est pas un gamin. Ça fait bizarre. Mais je pense que jamais personne lui a fait une remarque. Jamais personne lui a fait une remarque.
Au moment de la MU, donc à l'âge du collège, entre la 5e et la 3e, moi ça n'arrive pas alors que tous mes copains et tous les garçons de mon collège, on la voit qui déraille et au retour de vacances, ils reviennent avec une voix, un coffre énorme et c'est plus du tout la même personne. C'est très surprenant. Moi, j'ai pas ça, mais en fait, je n'en souffre pas et je ne suis pas pris non plus en souffre-douleur ou en moquerie autour de ça parce qu'en fait... Moi, j'ai eu une croissance de fille. J'ai grandi en 6e, 5e, alors que les garçons vont grandir plutôt en 4e, 3e. J'ai pris du muscle. En 5e, je commence à me raser. Donc, il n'y a pas de question de lier t'es une fille. Les quelques personnes qui pouvaient se risquer à ça envers moi, je lui disais, déjà, quand tu auras du poil, on pourra en reparler. J'ai assez peu de moments où je me pose des questions sur ma voix. De me dire pourquoi ça ne vient pas, pourquoi elle n'est pas grave, c'est comme ça. J'en ai jamais fait un complexe qui me bloquerait.
Donc je m'appelle Lucie, je connais Fanch depuis une dizaine d'années, plutôt via le boulot, mais c'est principalement un ami. Donc Fanch, c'est François, c'est son surnom, tout le monde l'appelle comme ça. La première fois que j'ai rencontré François, il avait effectivement cette voix. C'est une voix assez singulière. C'est plutôt une voix qui résonne un peu dans les discussions. Ce qui m'a surtout marqué, c'était son... Il avait un peu de panache et beaucoup de répartie, beaucoup d'autodérision. C'est plus ça qui était marquant que sa voix, finalement.
Je ne me suis jamais arrêtée à cause de ma voix. Ça ne m'a jamais empêchée d'aller vers les autres. Parce que je pense que j'ai, de par mon caractère aussi, développé... une forme d'humour pour désamorcer à des moments des risques d'aller vers cette question-là. À aucun moment de ma vie, je ne me pose médicalement la question autour de ça, parce qu'en fait, je ne souffre pas de la gorge. Mes parents, eux, ne disent pas « ce serait bien d'aller voir un médecin autour de ça ». Mes entretiens d'embauche, pour moi, ce n'est pas une question. J'y vais, je parle, et quelque part, il n'y a aucun problème. Les questions qui étaient posées, je pouvais juste répondre, c'est ma voix. Oui, je sais, elle est aiguë, mais c'est ma voix. C'est la voix que j'ai qui me vient quand j'actionne mes cordes vocales, point barre, quoi. Il y a très peu de moments où je me dis, j'ai une voix différente des autres, et je l'oublie très très souvent.
Oui, allô ?
Allô ? Oui, allô ?
Allô ? Allô ? Allô ?
Donc on lui a demandé de faire pour fin juillet, mais ça avait l'air très compliqué pour lui en termes de délai.
Oui. À aucun moment, ça ne m'a freiné dans mes études ou dans ma vie professionnelle.
On va essayer, mais il doit nous confirmer.
Je suis architecte depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis installée avec 4 associés.
Et puis faire les enrobés juste... dans la semaine à partir du 24 pour être prêt le 20.
Vis-à-vis des gens avec qui je travaille, des clients, des maîtres d'ouvrage, c'est jamais une question, mais parce que je ne laisse pas la possibilité que ce soit une question. Donc jusque-là, je n'ai pas subi moi, ma voix aiguë. Je n'ai pas eu de moteur de dire « il faut que je change, c'est plus possible, il faut que ça cesse, il faut que ça avance ». Je suis amenée régulièrement à prendre la parole en public. Ça m'arrive de scruter les réactions dans le public. Et j'en perçois un petit tic de visage en disant oh, « tiens, c'est bizarre ». Ça va être un chuchotement envers la personne à côté ou des expressions de « ah tiens, c'est bizarre ».
Allô ? Allô ? Bonjour ? Allô ? Bonjour ? Bonjour ?
Voilà, j'arrive à l'entraînement de basket. Donc je vais annoncer ça à mes divers camarades de sport. Donc ce soir.
Il nous avait envoyé dans notre WhatsApp de l'équipe, il avait dit j'ai quelque chose d'important à vous communiquer. Alors nous on l'a chambré, oui tu vas avoir la barbe bleue, tu t'es fait un tatouage, enfin des trucs délirants. Il dit non, vous verrez bien, vous verrez bien. Et puis alors, moi je pensais après quelque chose de plus grave, je dis il va nous déclarer une maladie ou un truc. Donc il nous réunit tous, un silence, plus de ballon, plus rien.
Il y a 4 mois, j'ai entamé un travail avec une orthophoniste. Et du coup, à partir d'aujourd'hui,
je vais changer de voix et je vais vous parler comme ça.
Oh
voilà. C'est quand même du changement, c'est pas la barbe, mais c'est quand même du changement.
Ah oui, oui. Voilà. Moi, je sais que c'est effectivement, ça m'a surpris, mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que il devait en souffrir, enfin je pense qu'il devait en souffrir dans le cadre de sa vie professionnelle, dans ses relations. Je pense qu'il a dû en souffrir hein, pour qu'il demande à travailler comme ça à son âge. C'est que ça veut dire qu'il a souffert de ce handicap, on peut appeler ça un handicap, qu'il a corrigé. Quoi.
J'ai pu avoir quelques moments désagréables. Quelqu'un va se moquer et 3 fois sur 4, on s'en fout. On arrive à passer, on arrive à s'en sortir en clouant le bec à la personne. Et il y a une fois où ça fait très mal. Et il y a plein de moments où c'est involontairement, basé sur des quiproquos. L'exemple le plus quotidien, c'est le téléphone. Des gens qui appellent à l'agence, qui ne me connaissent pas, qui démarchent et qui font « bonjour madame » et qui me mettent des madames partout. Et donc je laisse ça, de temps en temps je corrige en disant non monsieur, souvent ça amène pas grand chose, juste une discussion de dire ah pardon mais la communication est mauvaise, et de temps en temps ça fait mal, je sais pas pourquoi, je le prends mal, ça me fait chier, je raccroche, je suis pas bien et sur des moments où ça a été assez négatif envers moi. C'était dans le sport, j'ai fait beaucoup de basket dans toute mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Et c'est arrivé plusieurs fois sur des terrains que des adversaires, tout d'un coup, fassent une voix exprès, très aiguë. Et là, pour le coup, c'était des moments qui me faisaient un peu sortir de moi. Et ça a vraiment été dans l'adolescence. Il peut y avoir une autre forme de quiproquo qui ramène derrière un petit malaise. T'es dans une soirée. En train de déconner avec un groupe de personnes et quelqu'un est derrière et arrive et ça rigole et en fait pense que tu déconnes en plus avec ta voix, donc lui rentre dans la conversation en prenant une voix aiguë et souvent en fait ça amène un petit malaise derrière parce que la personne se rend compte que oh, merde, je pensais qu'il déconnait mais en fait j'ai caricaturé et c'est vraiment sa voix quoi. À certains moments plus difficiles dans ma vie, où il y a des choses qui peuvent être liées à la soi ou la confiance en soi, ce sujet peut venir. Ça a pu arriver sur des échecs amoureux où je voulais sortir avec une fille en seconde ou en première, qu'elle ne voulait pas. Et forcément, je suis obligée de me poser la question de si j'avais une voix plus grave, est-ce que ça aurait fait une différence ? Il y a un côté où je me dis peut-être que je ne fais pas assez homme pour cette fille-là ou cette femme-là. Est-ce que ça a joué ? Ça ne m'a pas fait hypothéquer de vie amoureuse, donc qui aurait pu justement être une grosse souffrance et puis que je me focalise sur cette question-là. Donc pour moi, il n'y a pas de problème d'avoir une voix aiguë. La femme avec qui je suis actuellement, on en a parlé une fois, elle a abordé le sujet parce que c'est elle qui a amené la chose. C'est une personne avec qui je suis depuis un an, donc c'est une histoire relativement fraîche, mais c'était il y a 6 mois où elle m'a posé la question en voiture. Elle a abordé la question autour de ma voix. Ça ne m'a pas dérangé du tout, c'était fait de toute façon très gentiment, mais elle m'a posé la question de cette voix, est-ce que ça a toujours été comme ça? Pourquoi? Enfin, il n'y avait pas de reproche ou de « en fait, je te pose cette question parce que je ne l'aime pas trop » ou enfin, que c'était une curiosité pour me connaître plus, pour en avoir aussi parlé avec elle. Ça ne lui pose pas de questions. J'étais amenée à aller voir un phoniatre suite à un rendez-vous avec mon médecin généraliste où on cherchait des problèmes d'assèchement de gorge. Où on a fait plein d'essais chez un allergologue, etc. Et on n'a rien trouvé. Et ma médecin me dit « Mais de toute façon, vos médecins, quand vous étiez petit, ont déjà fait des explorations autour de vos cordes vocales. » Je dis « Non, non, jamais. » Elle me fait « Ah bon, c'est étrange. » Parce que en fait, il y aurait pu y avoir une suspicion de kyste de cordes vocales qui pourrait être plus ou moins dormant et qui provoquerait cette gêne-là à ce moment. Donc, elle me fait cette ordonnance pour aller voir un phoniatre. Donc là, on touche à un sujet qui est ma voix, donc qui est particulier. Donc, je mets 2 ans à prendre ce rendez-vous chez le phoniatre. Et donc, je vais voir ce phoniatre à la sortie du déconfinement, qui me pose la question en récupérant mon ordonnance. Qu'est-ce qui vous amène? Donc, je lui explique ce que je viens de vous expliquer là sur l'assèchement, peut-être un kyste sur les cordes vocales. Et il me dit, oui, d'accord, mais sinon, votre voix... Enfin, parlez-moi de votre voix. Et assez rapidement, il m'explique que, en fait, ce que vous avez, c'est une mue faussée. C'est-à-dire que votre voix n'a pas mué au moment, à l'adolescence. Vous n'êtes pas passé sur une voix plus grave. Et je lui dis, en fait, il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que j'ai une voix plus grave que je connais, que j'ai déjà utilisée à plusieurs moments.
Et donc, je lui ai dit, je peux parler aussi avec une voix comme ça.
Donc, il n'a pas été étonné du tout. Et il m'a dit, oui, donc ça, la voix que vous venez d'utiliser, c'est la voix de coffre. Alors que la voix que vous utilisez continuellement, que vous qualifiez comme votre voix, c'est la voix de tête. Mais ces deux voix sont les vôtres. Le phoniatre a été aussi très fin dans sa façon de présenter les choses. Et en me disant que ces deux voix-là sont mes voix, en fait, il me donne l'autorisation d'utiliser cette voix-là. Maintenant, vous avez ça, vous savez, à vous de choisir. Pour la voix la plus grave, il y a un petit peu de travail à faire. Il m'envoie vers un ou une orthophoniste pour polir cette voix, pour l'asseoir, pour la travailler, pour qu'elle soit stable. C'est aussi qu'elle me ressemble. Bonjour. 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 Pendant la période de l'été, comme j'avais plus d'exercice avec l'orthophoniste quotidien, ce que j'avais commencé un petit peu avant l'été et que je me suis dit que j'allais continuer, c'était de me mettre en situation en utilisant ma voix grave dans les commerces, en allant acheter du pain. En fait, je suis, si on peut prendre une image, j'ai peut-être l'impression d'apprendre à marcher et d'apprendre à courir. Je suis pas encore à l'aise, je suis un peu maladroit, donc je suis un peu gauche. Donc je me rends compte quand même que toutes ces voix sortent de moi, donc elles me sont propres.
Yeah. Aïe. Yeah.
Wah. Wah. Wah.
Mom, 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 mom.
Allô? Allô?
Oui, allô?
Allô? Allô? Oui, allô?
Allô? Salut, ça y est, c'est parti. C'est le nouveau son de ma vie, c'est le nouveau son de ma voix. Bis, à bientôt.
J'enregistre la première voix, la voix aiguë. Et j'écoute la deuxième et c'est vraiment une surprise. Mais là, c'est la première fois que je l'entends. En fait, elle est bien. Je l'aime bien.
Lettre sonore numéro 32.
Chère voix.
Chère voix. Cher phoniatre, cher docteur Hamon. Cette consultation du 20 mai 2020 a été un moment très important dans ma vie. Le début d'une nouvelle phase. Une évolution qui aurait pu arriver il y a 30 ans, à l'adolescence. Une évolution qui s'est faite attendre, mais que j'ai pu choisir. Cette discussion avec vous m'a permis de me défausser de cette mue faussée. Avant cela, j'avais mis 2 ans à prendre ce rendez-vous, car inconsciemment j'avais peur que ce soit un rendez-vous manqué. Je n'ai pas été déçu, car bien que je sois venu pour une autre question, vous avez su provoquer le véritable sujet, celui que je ne m'avouais pas vraiment en venant, ma voix, ou plutôt mes voix. Mais vous m'avez permis d'accepter que cette autre voix que je connaissais était aussi la mienne. Grâce à vous, j'ai autorisé cette voix de coffre à être pleinement mienne. Vous êtes l'accoucheur de cette voix qui patientait en moi. Sans la bouleverser totalement, vous avez changé ma vie. Pour tout cela, merci.
Je ne sais pas à partir de quand elle est apparue, mais je peux dater il y a très longtemps une voix, c'est-à-dire que pour mon oral de français, j'ai utilisé l'autre voix. J'arrive pour l'oral et je prépare mon texte et j'arrive devant l'examinateur et aucun son n'est possible de sortir. Donc probablement l'émotion du premier examen, du premier oral. Donc il me dit « détendez-vous », etc. Et puis à un moment, il me dit « non mais là, il faut y aller, ça tourne ». Et en fait, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je devais la connaître un petit peu. Je bascule sur l'autre voix, donc la voix plus grave. Et je fais tout mon oral avec cette voix grave. Mais donc cette voix, je la connais depuis très longtemps, mais pour moi, ça n'était pas la mienne, quoi. Donc avant le phoniatre, je suis dans cet état d'esprit-là. Je sais qu'elle est là, mais elle n'est pas à moi et je l'utilise qu'à des moments précis où j'ai pas d'autre solution. Donc c'est parti.
Allons-y.
Il y a 3 jours, j'ai eu une séance assez déterminante avec l'orthophoniste qui fait bouger pas mal de lignes. Elle pense qu'il faut que je pratique beaucoup plus et que je me mette en situation plus régulièrement pour travailler et stabiliser la voix d'une façon plus efficace. On a donc conclu un peu ensemble qu'il fallait que je bascule un petit peu, enfin que je bascule, que je change de voix dans le cadre de mon travail. Donc à partir de demain, quand je vais arriver au boulot, je vais prendre ma voix de coffre. Ça me semblait être l'étape peut-être la plus délicate parce que je vais être confrontée plus à des gens qui me connaissent dans un cadre professionnel ou qui me connaissent assez peu. Donc,
à partir de demain, je devrais parler avec cette voix-là une bonne partie du temps.
Salut. Ça roule ?
Toi.
Ça va.
Un nouvel homme ?
Ouais, quasiment.
Ok, donc moi je suis Mathieu, je suis un des 4 associés de François.
On verra si c'est un nouvel homme.
Donc je suis arrivé un lundi matin, François était déjà là, Mick et Guillaume aussi, je pense. François m'a dit bonjour, avec cette nouvelle voix un peu rocailleuse, quoi, qu'il avait en tout cas cette première journée, quoi. Je crois que je lui ai dit « Ah, ça y est, c'est aujourd'hui ». Et toute la journée, c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'émotion autour de ça. Enfin, c'était un lundi matin, donc tous les lundis matins, on a une réunion assez longue où on discute de tous les projets, où on fait le point aussi sur tout ce qui ne va pas. Effectivement, là, on devait avoir un problème avec un maître d'ouvrage ou quelque chose comme ça. Et François a beaucoup pris la parole ce matin-là avec des moments où il y avait de la colère dans sa voix, mais c'était du coup assez différent des colères qu'on pouvait lui connaître, quoi. Il avait lui-même l'air surpris, en fait, de sa voix. En fait, ce qui est drôle de ce matin-là, c'est que, je sais pas pour les autres, mais effectivement, à certains moments, j'étais plus concentré sur sa nouvelle voix que sur son propos même, quoi. Voilà. Et puis après, on a été déjeuner tous ensemble, ce qu'on fait tous les lundis, et on a porté un toast à cette nouvelle voix. Enfin voilà, c'était un... on a trinqué à cette nouvelle voie.
Chère voix de coffre, chère nouvelle voix. Enfin, pas si nouvelle. Je sais que tu es là depuis longtemps déjà et que je ne t'ai pas laissé la place. Tu étais là les jours d'extinction de voix, pour annoncer les consignes sur le terrain au basket, pour me faire entendre quand il y avait trop de bruit, ou pour mon oral au bac de français, quand le stress séquestrait ma voix de tête. J'ai mis du temps à comprendre que tu étais ma voix, j'ai mis du temps à t'accepter comme telle. Mais voilà, maintenant tu es là, et j'en suis très heureux. Tu m'as plu. Pour moi, tu es belle. Je t'aime sûrement car je n'ai jamais envisagé la possibilité d'avoir une belle voix grave. Et qu'importe, de toute façon, tu me plais. J'aime aussi les nouvelles sensations plaisantes que tu me procures. J'aime la vibration, la résonance que tu diffuses dans mon corps, dans ma gorge, dans mon coffre, dans mes oreilles. Dans sa chanson « Le temps qui reste », Serge Reggiani disait « Je veux parler jusqu'à la fin de ma voix ». Maintenant, il nous reste beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vivre. Et je vais parler jusqu'à la fin de mes voix. Et tu vas voir, ça va être bien. Ça va être beau.
Le paysage était un éventail. Des plans de versants écrus s'intercalaient entre des arrière-mondes froissés de neige. La neige poudrait les plissements, les dieux se drapaient.
Mulier formula la chose des arrière-mondes froissés de neige. La neige poudrait les plissements, les dieux se drapaient. Munier formula la chose avec moins d'affêterie. La neige travaille comme un photographe de l'agence Magnum, en noir et blanc.
Ce qui était étonnant, c'est qu'il nous a un peu préparé en envoyant des textes lus avec ses deux voix. Je pense aussi pour poser un peu des billes et amener les choses un peu en douceur. Et en fait, quand j'ai entendu son autre voix, donc la voix qu'il utilise maintenant, j'ai trouvé ça hyper beau parce que je trouvais qu'on le reconnaissait vraiment, quoi. Au-delà du timbre, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, il y a aussi un rythme, c'est à la fois très fort, mais c'est un peu comme une coupe de cheveux. Je veux dire, s'il rase sa barbe, parce qu'il a quand même une sacrée barbe, ça marque un peu, puis en fait, après, on oublie, quoi, parce qu'en fait, c'est pas... quand on vient voir la personne, ce n'est pas ce qu'on cherche. Enfin, c'est... comme finalement, je le trouve, lui, évidemment, pas forcément changé. Après, c'est tout neuf, hein, mais... ça va peut-être se jouer par plein de subtiles nuances dans le rapport aux autres, dans la façon dont il peut aussi poser, engager une conversation ou prendre la parole, j'en sais rien. Peut-être, ça va peut-être changer plein de choses pour lui petit à petit. Au final, on le dit, ça change rien.
Journal de ma voix de coffre, jour numéro 1. Journée qu'on peut qualifier d'assez riche. J'ai fait aussi quelques annonces par message, petits messages enregistrés auprès de mes amis ou de ma famille. J'ai eu ma mère au téléphone qui était un peu surprise. Il y en a qui me posent la question ou qui se demandent si j'ai subi une opération. Donc non, ça n'est pas du tout le cas. C'est ce travail... avec une orthophoniste qui arrive à ce résultat. Après, on me pose beaucoup la question de est-ce que c'est un effort de parler avec la voix de coffre ? Et non, c'est même si c'est pas tout à fait le même mécanisme, c'est pas un effort. J'ai pas besoin de me concentrer non plus pour utiliser cette voix-là. Mais en revanche, il y a des moments où j'oublie, où ça m'est arrivé deux ou trois fois de parler avec la voix de tête parce que ça arrivait à des moments où j'étais avec des proches et que j'ai sûrement baissé un petit peu la garde dans mon attention et l'habitude a pris le dessus et je suis tout à fait capable de passer d'une voix à l'autre dans une même phrase. Et c'est assez troublant quelque part parce qu'au bout de trois jours, et c'est même encore le cas aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait vraiment très longtemps que j'ai basculé. Donc je pense que j'ai grave trouvé ma voix.
Donc la nouvelle voix de Titio, elle est comment ?
Bien. Elle est plus grosse qu'avant. Elle est plus grave.
Elle est plus grave, ouais. Et toi, ça te fait quoi d'entendre cette nouvelle voix ?
Mais j'ai pas toujours reconnu.
Ah, tu l'avais pas reconnue ?
Oui.
Parce qu'elle est nouvelle ?
Oui. Et parce qu'elle était beaucoup plus grave qu'avant.
Ouais.
Je m'appelle Anne, je suis la sœur aînée de Fanch, on a 2 ans de différence. Donc Fanch, il a 2 nièces qui sont mes filles à moi. Elles ont respectivement Alma 9 ans et Maïwenn 6 ans. Et on a reçu ce petit enregistrement vocal sur mon téléphone. C'était un extrait très court, enfin un petit mot très court de sa part. Et récemment, je lui ai dit que j'étais fière, que je savais pas trop pourquoi, mais que j'étais super fière de lui. Je trouve ça courageux de se prendre par le paletot et de se mettre à changer, quoi.
Il y a quelques personnes qui ont peur de perdre d'identité. Je ne sois plus tout à fait la même personne parce que le son est différent. Non, je n'ai pas peur de devenir quelqu'un d'autre en changeant cette voix. Mais après, ce travail-là, il est aussi très agréable pour moi parce qu'il me fait vivre des émotions qui peuvent me... Donc ça me touche de voir ce que ça suscite chez mes amis, chez mes proches.
Chère Charlotte, mon amour, jusqu'à cet été, jusqu'à ce que je provoque de nouveau la fin de notre relation, je pensais que je faisais ce travail pour moi et pour moi seule. Mais depuis que je ne t'ai plus à mes côtés, je me suis rendu compte de la part que tu avais dans cette aventure. Tu es la première femme de ma vie qui a abordé la question de ma voix. Tu l'as fait simplement, avec finesse, sans jugement, comme tu sais bien le faire. Ce travail, je l'ai entamé pour moi, mais c'est toi qui m'as aidé à l'achever. Tu m'as aidé à trouver des explications sur l'origine de cette mue faussée, à mettre des mots dessus. Certes, j'ai accepté de grandir et de devenir adulte. Mais d'une certaine façon, en conservant ma voix de jeune garçon, en conservant ma voix de tête, j'ai probablement refusé symboliquement de devenir homme. Et grâce à toi, je l'ai compris. Tu m'y as mené. Tu es la femme qui m'a fait homme. Pour tout ce que tu as apporté dans ma démarche autour de ma voix, je veux te remercier et te dire que je t'aime. Je voudrais terminer comme Reggiani termine sa chanson. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord ? À l'adolescence, je n'ai peut-être pas accepté de faire la mue inconsciemment pour ne pas devenir complètement homme, parce que je n'étais pas à l'aise avec l'idée de l'intégralité du costume de l'homme. Je pense que ça vient d'un passage dans mon enfance. Quand j'ai 9 ans, mes parents se sont séparés un temps et du coup, je me suis retrouvé un peu au milieu de ce tumulte-là. Et je pense que ça m'a touché plus que je ne pensais et que ça a laissé des traces... Dans ma construction. Je ne veux pas devenir complètement homme et que du coup, inconsciemment encore, j'insiste là-dessus, je décide, même si je n'ai pas vraiment cette impression-là, de conserver ma voix de jeune garçon plutôt que de muet.
Ouah, ouah, ouah.
On mue, moi je ne l'ai pas fait à l'adolescence, je suis assez mûr pour le faire aujourd'hui.
Allô. Allô.
Allô. Chère voix de tête, chère petite voix. Voilà une 40aine d'années que nous vivons ensemble. En 40 ans, nous en avons traversé des étapes, et même si quelquefois je n'ai pas réussi à te faire sortir, je t'en ai fait dire des choses, et j'ai aimé le faire avec toi. Nous avions eu quelques épreuves aussi. Les regards maladroits de la convention, les moqueries de la normalité. Malgré eux, je ne t'ai jamais tu, jamais bâillonné, jamais caché. Et nous avons fait face. On s'en est bien sortis, je crois. Je n'ai jamais eu l'envie de te remiser, de t'abandonner. J'ai pu décider de muer quand je l'ai voulu, quand j'ai été prêt, là où la plupart des adolescents n'ont pas le choix. C'est peut-être une chance, en tout cas c'est grisant. Bien sûr, tu auras encore une place dans ma vie. Je ne sais pas encore exactement laquelle, mais tu es encore là dans mon rire. D'ailleurs, tu t'invites parfois encore dans des échanges avec mes proches, et c'est très bien. Certains te regrettent un peu car ils t'aimaient bien. Alors nous trouverons quand et comment les contenter. Pour tous ces moments vécus et ceux à vivre, merci.
Vous venez d'écouter Chère Voix, un épisode de Postscriptum, le podcast de Lettres Sonores qui propose de renouer le dialogue par micro interposé. Nous sommes très fiers, Chère Voix a remporté le prix Archives de la Parole au Phonurgia Nova Awards 2021. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur votre appli de podcast.
Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.